Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Lefebvre et vous écoutez une série de balados où on s'entretient avec plusieurs professionnels qui gravitent autour du monde de l'aide juridique. C'est pas personnellement un univers que je connais profondément, mais c'est justement ça l'objectif, de démystifier avec eux, pour vous, c'est quoi leur rôle puis à quoi ça ressemble leur quotidien. Donc aujourd'hui, on a la chance de s'entretenir avec Samuel Landry. Merci d'être là.
Merci de m'avoir.
Yes, fait que tu veux-tu m'expliquer un petit peu c'est quoi justement ton titre, ton poste à l'aide juridique?
Bien sûr. Dans le fond, moi, je suis présentement avocat plaideur en droit de la santé mentale. Je suis à l'aide juridique depuis un moment. En fait, j'ai fait mon stage ici, aussi en droit de la santé mentale, à l'été 2019. Puis par la suite, là, je me suis déplacé un peu partout dans le réseau. J'ai travaillé ici, à Joliette, à La Chute, à Terrebonne, dans toutes sortes de types de droits aussi. Jamais en droit criminel, mais en protection de la jeunesse, en familial, en logement. Puis là, depuis quelques semaines, un mois et demi peut-être, je suis de retour vraiment à 100% en santé mentale.
Puis j'aime ça un peu starter des fois ces discussions-là avec ta vision de comment t'expliques à des gens qui n'ont aucune idée c'est quoi l'aide juridique. Comment tu l'expliquais brièvement un peu?
Ben, tu sais, l'idée avec l'aide juridique, là, c'est simplement que le gouvernement est bien au courant que les honoraires des avocats, là, des 200, 250 $ de l'heure, c'est vraiment pas tout le monde qui peut se le payer. Beaucoup de gens, même avec peu de revenus, ont des problèmes avec leur logement, avec leurs prestations du gouvernement, avec des accusations criminelles. Fait que l'idée, c'est de permettre que ces gens-là aient quand même un avocat qui leur soit fourni du moment que leurs revenus ou leurs actifs soient en dessous d'un certain seuil. C'est un petit peu comme la même façon qu'on a l'assurance maladie.
Ouais.
C'est pas tout le monde qui a besoin de payer ses docteurs à chaque fois. Ben, on a une forme d'assurance juridique pour les gens qui seront pas capables d'y avoir accès autrement.
OK. Fait que toi, c'est vraiment parce que j'ai l'impression qu'en droit, il y a plein de types de droits différents. Toi, est-ce que tu savais ça un peu de l'aide juridique puis tu, en faisant ton parcours académique, t'as dit ça, c'est une branche qui m'intéresse d'aller dans ça ou c'est plus arrivé au courant de ton parcours?
J'ai vraiment choisi l'aide juridique plus que le type de droit. Moi, okay. Pendant que je faisais mon bac puis l'école du barreau après, c'était le droit criminel, en fait, qui m'intéressait le plus. Puis finalement, quand c'est venu le temps de choisir un stage, j'avais l'option entre un stage au DPCP pour être procureur ou d'un stage ici à l'aide juridique en santé mentale. Puis j'aurais eu tendance à aller vers le droit criminel selon ce que j'avais le plus d'affinité. Mais c'était vraiment l'aide juridique, l'idée de travailler finalement pour cette clientèle-là qui en a besoin. Moi, je trouve ça important que ce que je fasse pendant 40-50 heures par semaine, ce soit le plus utile possible. Puis ça s'alignait mieux finalement avec mes valeurs. Le travail de l'aide juridique.
Oui. Puis, est-ce que ça a été ça, finalement? Ça s'est-tu concrétisé, tu sais, ou la vision que tu avais avant d'embarquer à l'aide juridique, est-ce qu'elle a changé une fois que tu as commencé à avoir les deux mains dedans, tu sais?
J'avais pas une vision très précise, justement. Mm-hmm. Tu sais, je connaissais pas immensément ça, à part de savoir que ça existait. Puis, ça faisait un peu partie, comme d'un côté communautaire, là. Il y avait toujours cette vision-là que c'était. Pas moins formel, mais qu'on était moins là, dans la culture d'avocat, de gros cabinet avec un certain snobisme.
Cours sur barreau plus... et tout. Là,
exact. J'ai toujours eu une notion que travailler à l'aide juridique avait un côté un peu de travail social, puis c'est quelque chose qui m'attirait aussi, puis ça, c'est définitivement le cas. Puis pour le reste, je te dirais que ça s'est bien concrétisé là, dans le sens d'avoir l'impression de faire quelque chose d'utile ou de rendre un service concret, là, aux gens, moi, c'était ça mon objectif. Puis je t'avoue, je trouve que ça marche quand même bien.
OK, ouais, parfait. C'est génial. Puis là, tu disais que tu étais plus justement spécialisé comme en santé mentale en tant que tel.
Exact.
Quelle forme ça prend ça en fait? C'est quoi le type de clientèle justement que ça, ou les personnes qui viennent te voir, ça ressemble à quoi, tu sais?
Ouais, ben dans le fond, moi, je fais principalement trois types de dossiers. Le plus gros de ce que je fais chaque jour, c'est ce qu'on appelle des gardes en établissement.
OK.
L'idée, c'est que normalement, si tu te présentes à l'hôpital, ils vont pas te garder à moins que toi, tu veuilles rester là. Tu as toujours l'option de refuser les soins puis de partir.
OK.
Mais il y a une exception à ça qui est quand, à cause de ton état de santé mentale, tu es dangereux pour toi-même ou pour quelqu'un d'autre.
Mm-hmm.
Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui commence de l'Alzheimer puis qu'on pense que s'il retourne chez lui, il est à risque de mettre le feu ou de se blesser. Ou ça peut être quelqu'un en psychose qui a un délire quelconque ou qui est paranoïaque puis qui pourrait s'en prendre là se mettre lui-même dans des situations où est-ce qu'il serait dans le trouble. Fait que dans des cas comme ça, les hôpitaux, ils peuvent faire une demande pour garder la personne contre son gré à certaines conditions. Fait que ça, c'est le plus gros de ma pratique chaque jour. C'est des choses qui se font d'urgence aussi. Il y a un aspect vraiment... sur le vif, quasiment d'improvisation. Là, on reçoit les demandes la veille en fin d'après-midi. Puis le lendemain, à 8h30, ils me les amènent, mes patients, de l'hôpital directement. Je les rencontre au palais de justice, puis on passe devant le juge.
OK, fait que c'est vraiment directement, c'est au palais de justice que tout se passe. Là.
Exact, parce que les causes sont entendues comme en priorité, parce que ces gens-là, ils sont retenus contre leur gré à l'hôpital sans avoir rien fait de mal nécessairement. T'sais, ils sont pas là pour être chicanés ou pour être punis. C'est vraiment juste de dire, on n'est pas sûr s'il retourne chez lui si ça représenterait un danger. Fait qu'on passe devant le juge à ce sujet-là. Ça, c'est la garde en établissement. Puis des fois aussi, justement, il y a des gens qui ont des maladies que, à cause de la maladie, comme la schizophrénie, souvent les gens se rendent pas compte qu'ils sont schizophrènes.
Ouais.
Fait que dans ces cas-là, éventuellement, des fois, les médecins doivent obliger la personne à recevoir un traitement parce que si on reconnaît pas qu'on a une maladie, on n'est pas à risque d'accepter des médicaments qui ont des effets secondaires en plus. T'sais.
Mais oui.
Ça, c'est plus une grosse affaire. Ça se prépare d'avance. Puis si on parle d'une demi-journée complète, là, demi-journée à journée complète de procès, on fait venir les psychiatres, les ergothérapeutes, les membres de la famille pour vraiment voir finalement c'est quoi la nécessité de ce traitement-là. Est-ce que cette personne-là vraiment est pas capable de décider par elle-même? Parce que le principe au Québec, c'est qu'on choisit soi-même de ses traitements. On a le droit, à partir de 14 ans, c'est de consentir ou de refuser des soins. Mais des fois, la maladie mentale intervient. Puis dans ces cas-là, ben, moi, j'accompagne finalement la personne qui a des problématiques de santé mentale dans son passage devant les tribunaux. Puis...
Ouais, en fait, ça veut dire qu'il y a t'as un rapport humain qui doit être quand même très présent avec ces personnes-là. Comment tu crées ce contact-là avec tes clients, finalement?
La première étape, justement, c'est de clarifier avec eux qu'on est leur allié puis qu'on est là pour les accompagner à travers ça. T'sais, des fois, ils n'ont pas un extrêmement bon cas pour aller devant le juge, puis on se doute un peu de comment ça va se conclure. Puis, en vérité, l'hôpital et les psychiatres ont autre chose à faire que d'essayer de garder de force des gens qui vont bien. Là. Fait que, je peux pas dire que je gagne beaucoup de mes dossiers, mais l'important, c'est pas tellement de les gagner que de faire en sorte que la personne que j'accompagne, ben, là, elle se sent prise en charge, elle se sent écoutée, elle comprend c'est quoi qui va arriver devant le juge, parce que les gens n'ont pas l'habitude là, de se retrouver devant le tribunal. Fait que déjà, c'est pas clair pour quelqu'un qui a toute sa tête. Puis quand en plus, t'es dans un moment de crise, ça leur fait du bien là, de savoir que voici comment ça va se passer, voici les étapes, je vais te poser des questions, on va se préparer. Leur faire comprendre aussi qu'ils sont pas accusés d'un crime, il y a personne qui dit qu'ils sont fous, il y a personne qui veut leur coller une étiquette.
Parce qu'il y a un stress énorme, là, un palais de justice en soi. Là.
Exact, puis il y a beaucoup de gens que les seules fois où ils sont allés, c'est parce qu'ils se faisaient accuser de quelque chose aux criminels. Ou... Fait que juste les accompagner là-dedans finalement. Là, donc pour les gens de l'égal établissement, ben, j'ai pas le choix de faire ça le matin même, sur le coup, quand ils me l'amènent, pendant une petite demi-heure que j'ai à les rencontrer. Pour ceux que c'est des ordonnances de traitement, que ça, c'est plus long, ben ça, souvent, je peux les rencontrer. Je m'en vais à l'hôpital.
OK.
Je suis rendu bien ami avec les gens de la psychiatrie là-bas. Ils me laissent monter, ils me font une petite salle de conférence, puis on peut justement se parler là, du dossier, même si des fois, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas grand-chose à parler par rapport à la médication de quelqu'un qui ne reconnaît pas sa maladie, mais au moins d'expliquer un peu le processus qui s'en vient.
Mais ça veut dire que tu n'as pas de journée typique là, en tant que telle. Ou du moins, vu que les cas doivent quand même modifier, ça doit être assez dynamique là, ton quotidien. Hein.
Absolument. Ben, c'est une des choses que j'aime justement dans cette pratique-là. Moi, je suis tous les matins et tous les après-midi au palais de justice. Des fois, je rencontre un patient, des fois, j'en rencontre cinq.
Okay,
chaque dossier, c'est toujours le même principe, c'est toujours la même structure finalement à mes journées. Mais chaque dossier est unique. Il y en a des fois qui vont revenir à plusieurs reprises ou des fois, ça va être carrément toutes des nouvelles personnes avec des nouvelles histoires.
Wow, OK. Puis le fait de te spécialiser justement en santé mentale, ça l'implique aussi probablement que là, tu dois t'y connaître un peu plus en santé mentale. Tu sais, ça a l'air niaiseux, mais tu sais, à la base, t'as une formation en droit. Ça t'a-tu forcé à justement plonger là-dedans dans un autre domaine finalement?
Absolument. Puis je pense que c'est le cas pour n'importe quel avocat dans n'importe quel domaine. T'sais, on apprend de façon générale comment fonctionne le système de justice, les lois puis tout ça. Mais l'avocat qui commence le droit de la construction, ben forcément, il prend des notions d'ingénierie, puis il prend en matériaux puis tout ça. C'est la même chose pour la santé mentale. T'sais, quand tu commences, tu connais peut-être le nom de certains diagnostics, mais après ça, tu te familiarises avec de plus en plus d'informations, de détails. Tu te rends compte que différentes situations finalement sont uniques, mais se ressemblent aussi, qu'il y a certains points en commun. Il y a une grosse apprentissage à faire aussi au niveau de la pharmacologie, des différents médicaments.
Mais ça doit changer ça aussi, là?
Ben, il y a une certaine stabilité quand même. Je te dirais que les psychiatres suivent pas mal toujours les mêmes plans de traitement. On fait toujours affaire aux mêmes molécules antipsychotiques pour traiter les mêmes types de maladies. Fait que ça, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à apprendre là-dedans. Puis fréquemment, des dossiers apprennent des... Il faut apprendre des nouvelles choses. Récemment, j'ai découvert que dans la littérature médicale, on voit là, qu'il y a souvent des cas où il y a des diagnostics de schizophrénie qui sont posés, puis finalement, on se rend compte qu'il y a une interférence avec un diagnostic d'autisme. Certains symptômes de l'autisme, certains symptômes sociaux, d'évitement du regard, qui peuvent ressembler à des attitudes de quelqu'un qui entend des voix. Comme il y a des fois où il y a de la confusion comme ça, puis ça affecte le traitement. Fait que régulièrement, il y a des nouveaux cas qui repoussent les limites de ce que je sais, puis ça fait partie du fun aussi.
Oui, puis tu te gardes, donc tu es tout le temps stimulé là, par rapport à ça, là, ça veut dire?
Absolument. Puis c'est de la psychologie aussi. Même les gens qui sont justement en manie ou en psychose, mais ces délires-là, ils se rattachent quand même à une psychologie humaine normale. Or, je reconnais les mêmes anxiétés et les mêmes peurs que tout le monde vit, mais là, c'est traité d'une façon complètement différente par le cerveau. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans.
Puis c'est quoi les défis? Ça doit en avoir une tonne, là, mais les défis d'avoir ce type de droit-là, puis le travail que tu fais au jour le jour, c'est quoi les. Pour toi, ce qui est le plus challengeant, peut-être? Là?
Bien, c'est sûr qu'au début, justement, il y a cet aspect-là qu'on ne s'y connaît pas en psychiatrie là, par défaut. Fait qu'il faut apprendre ça. C'est pas non plus commun là, d'avoir des conversations avec des gens qui sont extrêmement méfiants ou paranoïaques,
ben
parfois
oui.
Carrément hostiles ou mutiques. Fait que c'est sûr qu'il y a un apprentissage à faire à ce niveau-là. Sinon, ben, ça prend une certaine tolérance quand même à être exposé à des situations qui sont tristes. T'sais, des fois, il y a des affaires qui sont cocasses. Mais c'est très rarement des histoires, tu sais, quand je parle de danger, c'est très rarement des histoires violentes ou agressives, tu sais, c'est plus souvent des histoires un peu tristes là, de perte d'autonomie ou de personne qui est comme en bris de fonctionnement puis qui a eu toutes sortes de pertes autour là, dans son réseau.
Puis tu les vois dans les moments les plus vulnérables qui sont, là, finalement.
Oui, puis tout le monde a leur réaction à ça. Il y a des gens qui sont dans la colère, des gens qui sont dans la tristesse, dans la honte, des gens qui sont dans un déni complet aussi, là, qu'il y a le moindre problème. Fait que c'est d'apprendre à gérer un peu ces différentes choses-là, mais c'est le défi, mais c'est aussi la partie qui est intéressante. T'sais, au-delà du droit, il y a un travail vraiment humain à faire là-dedans qui me passionne.
Cette job-là que tu fais, quand tu parlais de début de ton parcours, il y avait l'aspect communautaire, l'aspect social. Maintenant que t'es vraiment dedans, puis tout, est-ce que t'es valorisé par ça en ce moment?
Absolument, puis c'est drôle, mais je m'en rends compte des fois dans la vraie vie, tu sais, ça arrive quand même là, en faisant l'épicerie à Montréal, qu'il y a quelqu'un qui crie dans les allées ou que t'es dans un parc, puis quelqu'un que tu dis peut-être un petit peu trop bu ou peut-être... Il y a une première réaction instinctive, un peu de peur, c'est étrange, c'est imprévisible, je sais pas trop qu'est-ce qui s'en vient. Mais là, après avoir vu 500 personnes dans différentes situations de crise, je le sais qu'en pratique, c'est pas un risque pour moi, ces situations-là, puis c'est juste des humains qui arrêtent pas d'avoir des interactions anormales puis pénibles, des fois juste de sourire ou de saluer à quelqu'un. Fait que ce genre de choses-là se transpose dans ma vie après aussi, où est-ce que je suis vraiment plus conscient de ce genre de différences-là, puis ça apporte du positif.
Ben oui, c'est ça.
Tout le reste.
Ce genre de travail-là, de métier puis de carrière que vous faites, il y a un aspect où quand tu disais d'avoir du sens puis tout, ben c'est vraiment pas donné à tout le monde de faire des emplois que ça leur apporte du sens. Fait que le côté humain puis de quitter doit être vraiment influencé par ton travail et inversement, là, sans arrêt.
Absolument. Ce que tu dis, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Je suis 100% d'accord. Là. Mon pire cauchemar, ce serait par exemple de créer de la publicité. De dire, là, je passe 50 heures par semaine à essayer de vendre aux gens des produits qu'ils n'ont pas besoin pour faire de l'argent à comme une compagnie que je connais pas. T'sais. Je peux pas imaginer une pire façon d'utiliser ma semaine. Puis à l'inverse, là, justement, je peux rendre service à des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens de me payer puis qui n'auront pas besoin de le faire non plus.
Ouais.
C'est niaiseux, mais ça enlève aussi cette partie-là qui est peut-être désagréable du travail d'avocat de dire aux gens, regarde, ça va te coûter 10 000 $, faut que tu me donnes 5 000 $ cash tout de suite. Je sais que tu l'as pas, mais trouve une façon. Puis après ça, de collecter puis de devoir un peu courir après les gens qui payent pas, tout ça. Et là, j'ai de la paperasse à faire à la place, mais je préfère cette bureaucratie-là à devoir me justifier à moi-même aussi là, des honoraires aussi élevés parce que c'est la seule façon de rouler. Ou...
Surtout quand tu vois le bien que ça peut faire, finalement. Là.
En plus.
Donc oui, moi, ce que j'aimerais aussi aborder, c'est l'aspect que tu disais que tu avais eu un parcours qui se promenait, qui était... Tu sais, en ce moment, on est les bureaux à Saint-Jérôme, mais dans ta carrière, tu as été à différents endroits, donc à Joliette, à La Chute. Comment ton travail est modulé par ton environnement, finalement?
C'est sûr qu'une des grosses différences, qui n'est peut-être pas évidente nécessairement là, pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas avocats, c'est que moi, je ne peux pas du tout faire ma job sans avoir un personnel de soutien qui est avec moi, une adjointe, une réceptionniste. Puis, tu sais, au point où il y a quelqu'un qui travaille à temps plein avec moi pour m'accompagner dans mes dossiers. Fait que ça, dès que tu changes de bureau, ben, tu changes aussi ton équipe qui t'entoure. Puis, c'est sûr que ça fait une grosse différence. Tu sais, par exemple, ici au bureau de Saint-Jérôme, il y a peut-être une vingtaine d'avocats puis autant de personnel de soutien qui travaillent là, alors qu'à La Chute ou à Terrebonne, mais j'étais le seul avocat avec une adjointe ou...
T'es-tu pas mal plus dans le... Y a-tu plus d'urgence quand t'es à La Chute parce que t'es le seul pour attraper les balles ou tu le sentais moins, ça?
Bien, c'est sûr, parce que l'affaire aussi, c'est que, mettons, je fais pas de droit criminel, fait au bureau de La Chute, quand quelqu'un appelait avec un problème de droit criminel, il faut qu'on les redirige finalement vers le bon service. T'sais. On ne va pas juste leur fermer la porte au nez.
Oui.
Mais c'est sûr que ça fait une différence là, d'être dans un gros bureau ou dans un bureau avec une plus petite équipe. Puis la clientèle change aussi quand même de région en région. Par exemple, à Joliette, on est proche d'une communauté autochtone à Manawan. Fait qu'on va avoir des enjeux avec leur type d'aide sociale particulier ou avec juste différentes problématiques qu'on ne se retrouve pas nécessairement là, à Terrebonne ou au bureau de Saint-Jérôme. Fait qu'il y a des petites particularités régionales quand même.
Génial. Ben, merci beaucoup, Samuel. C'est super apprécié.
Ça fait plaisir.
Vous venez d'écouter le balado pour le Centre communautaire juridique Laurentides-Lanaudière. Si vous voulez en savoir plus, visitez le www.ccjll.qc.ca. Ce balado est une production des Copains du son.